On a un thème transversal chaque année, cette année, donc c'est mémoire au pluriel. Donc ça commencera mardi, 19 janvier. Tous les mardis, en dehors des périodes scolaires, de 19h à 21h, et cette année, on aura la dernière séance le 14 décembre. Donc on a un programme bien chargé. Au centre Fabonné Ronda, ici, et du coup à l'IUFM, c'est à l'IUFM qu'on commencera. Alors, le programme est à la fois disponible en haut, mais aussi on peut avoir les informations pratiques réductives sur le site de l'Université Populaire, hein, munipop.anime.fr.free.fr. Donc là, on a toutes les informations régulières. On a toutes les salles à indiquer jusqu'au deux tiers de l'année, mais il y a le dernier tiers où il faudra préciser les salles. Donc, comme l'a dit Myriam aussi, je vais animer cette année, je vais faire une tentative d'atelier d'apprentissage du philosophie. Donc, l'enseignant n'est pas là pour donner un cours, mais pour animer un travail qui est fait principalement par les participants de l'atelier. Doivent acquérir par eux-mêmes dans leur relation des mécanismes de philosophie. Ça sera autour du thème mémoire et utopie, donc ça sera 4 séances en avril et en mai, et il faudra donc se préinscrire parce qu'on acceptera qu'une vingtaine de personnes, parce que c'est un travail avec des groupes. Donc il faudra, pour ceux qui veulent s'inscrire, nous envoyer un email à l'adresse de l'Université Populaire, donc université-populaire-nîmes @laposte.net. Et pour que équilibrer le groupe, pour qu'il y ait un certain équilibre des générations, des professions et des genres, on vous demande de préciser votre âge, votre profession, votre sexe, pour qu'il n'y ait pas une trop grande homogénéité de ces trois éléments, puisqu'on peut accepter une vingtaine de personnes. Donc voilà, ça sera une nouveauté du point de vue pédagogique. Alors, pour ouvrir le thème mémoire, nous avons demandé à Lido Traverso d'intervenir sur le thème des usages poétiques du passé. C'est un thème fortement en résonance avec l'actualité, hein, ne serait-ce que avec le récent débat lancé par le gouvernement sur l'identité nationale. Donc on a une question en pleine actualité. Enzo Traverso donc, est un professeur de sciences politiques et historien à l'Université de Picardie. Ses travaux portent sur la question juive, la Shoah, le nazisme ou le totalitarisme. Ils ont une renommée, d'ailleurs plusieurs de ses livres et textes sont traduits d'une renommée internationale. Je cite quelques titres, Les marxistes et la question juive, 1990. L'histoire déchirée, c'est sur Auschwitz et les intellectuels, 1997, le totalitarisme, 2001, la violence nazie, 2002, ou la pensée dispersée, figure de l'exil vidéo-allemand, 2004. Et le livre qui est sans doute le plus proche de la conférence d'aujourd'hui, c'est sans doute ce livre, Le passé mode d'emploi, histoire, mémoire et politique, aux éditions de La Fabrique, en 2005. Avant de lui passer la parole, je voudrais simplement rendre un hommage à un ami qui était aussi un ami de Enzo Traverso, un philosophe et un militant mort le 12 janvier, Daniel Ben Saïd. C'était un ami, un militant qui avait accepté d'ailleurs de venir parler à Nîmes de mai 68, mais qui, à cause de la maladie, n'a pas pu venir. Il a justement travaillé aussi sur les rapports de la mémoire et de l'histoire. Par exemple, dans son livre Le Paris mélancolique de 1997, Daniel écrivait « Il faut être capable en effet de regarder en arrière pour pouvoir regarder en avant » et il parlait alors de la dialectique de la mémoire et du projet. Ce qui était à la fois l'intelligence de Daniel Ben Saïd et sa chaleur humaine restera, je pense, dans nos mémoires très longtemps. Je passe la parole à Annie.
Merci. Il y a Philippe pour cette introduction et pour cette invitation à l'Université Populaire de Nîmes. Je suis très content d'être là ce soir. Et je voudrais partager cet hommage, les souvenirs de Daniel Ben Saïd qui vient bien de vous quitter, qui a été pour moi une figure très importante et que je crois malheureusement irremplaçable pour non seulement pour tous ses amis, pour tous ceux qui l'ont connu, qui ont partagé ses combats, ses luttes, ses passions, mais pour la culture française et pour la pensée critique d'une manière générale, au-delà des frontières de la France, parce que Daniel Bensaïd, j'ai pu le vérifier à plusieurs reprises, était l'interlocuteur de beaucoup d'intellectuels, de militants dans le monde entier. Et je crois que cette perte nous affecte tous. Mais alors, le thème auquel j'ai été invité à discuter, à un débat ce soir, c'est le rapport entre la mémoire, l'histoire et la politique, donc les usages politiques du passé. La question est vaste et je voudrais partir d'un épisode, un événement dont on a parlé, mais la presse et les médias en sont fait des coups au cours de ces dernières années. Une loi qui a été promulguée par les Cortés, par le Parlement en Espagne, en 2007, une loi qui est connue sous l'appellation de loi de mémoire historique, Ley de Memoria Histórica, une loi qui, d'une certaine façon, essaye de surmonter l'héritage du passé franquiste et de la guerre civile et qui se veut une sorte de réparation tout au moins symbolique des victimes du franquisme. Alors, je ne voudrais pas revenir sur cette loi, peut-être on pourra parler au cours du débat. Ce qui m'intéresse dans cette loi, c'est son appellation, l'appellation sous laquelle elle est connue, loi de mémoire historique. Et c'est une appellation étrange parce que jusqu'à présent, tout au long du XXe siècle, je dirais, dans l'histoire, dans les sciences sociales, on a essayé de séparer l'histoire de la mémoire. Tous les grands savants, intellectuels, historiens, sociologues qui ont écrit sur la mémoire ont insisté sur le fait que la mémoire est quelque chose de différent par rapport à l'histoire, même si évidemment les deux ont une relation avec un même objet qui est le passé. Et on a toujours insisté sur le fait que la mémoire est un ensemble de souvenirs ou de représentations subjectives du passé. La mémoire est un ensemble de souvenirs individuels ou collectifs du passé, alors que l'histoire, c'est un discours critique sur le passé. L'histoire, c'est une reconstitution du passé qui est élaborée par des historiens, une discipline scientifique, qui à sa propre méthode, ses propres règles, est, disons, un discours critique sur le passé. L'histoire s'est émancipée de la mémoire et a transformé même la mémoire en objet d'investigation, de recherche, d'études. Eh bien, cette loi espagnole mélange les genres. Cette loi met ensemble histoire et mémoire, en dépit de tous les efforts qui ont été faits jusqu'à présent pour les séparer, et renverse presque le rapport, parce que dans l'appellation de cette loi, c'est la mémoire qui prime, et comme substantif, et c'est l'histoire qui devient un adjectif. Donc, il y a une hiérarchie qui est, en quelque sorte, renversé. Et je suis parti de ce constat qui me semble intéressant parce que finalement, cette loi indique quelque chose qui s'est produit au cours de ces dernières années, de ces deux dernières décennies, je pense, c'est-à-dire une collision entre l'histoire et la mémoire, plus qu'une rencontre, une collision entre deux temporalités, une temporalité historique et une temporalité mémorielle, qui se croisent et qui ont des conséquences très importantes sur la manière à la fois de penser le passé, à la fois de se rapporter, c'est une manière de non seulement de se représenter, mais de réactiver le passé dans le présent, et dans la manière d'écrire l'histoire du passé. C'est-à-dire que nous vivons à une époque où il y a une mémoire historique qui est celle d'un siècle, et donc d'un passé qui est un passé clos, qui est un passé clôturé, un passé que nous pouvons penser comme un passé appartenant à l'histoire et séparé par rapport à notre présent, mais un passé qui, tout en appartenant à l'histoire, habite toujours notre présent. Et donc un passé dont notre mémoire est chargée, notre mémoire d'individu ou notre mémoire collective. Il y a quelque chose là, de nouveau, qui me paraît intéressant et qui a des conséquences sur lesquelles peut-être on ne réfléchit pas suffisamment et qui mériterait peut-être une investigation critique un peu plus poussée. Si on regarde aux premières tentatives d'écrire des histoires du XXe siècle, des tentatives qui ont été faites par les historiens de profession, eh bien, on s'aperçoit qu'il s'agit de reconstitutions de l'histoire du XXe siècle dans lesquelles la mémoire occupe une place prépondérante. Il y a beaucoup de mémoire dans ces histoires-là, il y a beaucoup de mémoire, de subjectivité dans la manière de reconstituer le passé. Je voudrais donner un seul exemple, deux livres qui sont très connus, bien au-delà de la discipline historique, un livre comme celui d'Eric Hobsbawm, L'âge des extrêmes, histoire court au XXe siècle, qui propose même une périodisation du XXe siècle qui va de 1914 à 1989, ou un livre comme Le passé d'une illusion de François Furet, deux livres très différents. Hobsbawm est un historien marxiste, François Furet était un historien libéral, deux éclairages sur l'histoire du XXe siècle presque aux antipodes de l'autre, et pourtant ces deux ouvrages présentent un trait commun, deux reconstitutions de l'histoire du XXe siècle qui très souvent prennent les traits de l'autobiographie. Et cela a été souligné par plusieurs critiques de ces livres. Parce que pour écrire l'histoire, il faut certes une césure vis-à-vis du passé, une rupture, il faut qu'il y ait au moins symboliquement quelque chose qui nous fait comprendre que nous vivons dans un monde qui est autre par rapport à un passé que nous avons peut-être vécu mais qui appartient à l'histoire. Il faut des sources pour écrire l'histoire, cela tous les historiens et tous les chercheurs le savent, mais pour écrire l'histoire il faut aussi une demande sociale de connaissance. Il faut l'historien ne travaille pas isolé ou enfermé dans les bibliothèques, il travaille pour répondre à un besoin de connaissance, de débat, de réflexion qui existe dans la société, qui est porté dans la société civile et qui est portée par la mémoire collective. Donc il y a une interférence, il y a
un passage permanent entre histoire et mémoire qui explique aussi les orientations de l'historiographie, pourquoi l'historiographie s'intéresse de tel aspect du passé plutôt que d'un autre. Et je pense qu'il faut prendre en considération ces interférences, cette intersection entre l'histoire et la mémoire, entre les parcours de la mémoire, qui nous font comprendre aussi quels sont les parcours de l'historiographie. Le fait que l'historiographie se constitue comme réponse à une demande sociale de connaissance fait que l'historiographie est un lieu de production de savoir, de connaissance, mais l'historiographie peut être aussi, je dirais presque, un miroir des trous de mémoire de la société. Et on pourrait donner beaucoup d'exemples sur pourquoi les historiens s'intéressent beaucoup à tel aspect, un ignorant, pourquoi un tel thème, un tel événement qui a été ignoré, oublié pendant des décennies, tout à coup revient au-devant de la scène et exerce une, dire, sur laquelle il y a une focalisation qui peut être même obsessionnelle à un moment donné. Donc c'est un peu le point de départ de ma réflexion. Je pense que c'est un thème qui mérite d'être pris en considération. Mais alors, les usages politiques du passé, il faut essayer de répondre à la question que posait Myriam au départ dans son intervention. Pourquoi cette obsession mémorielle, pourquoi le passé occupe une place tellement importante dans le débat intellectuel, politique, culturel de nos sociétés contemporaines? Cela vaut pour la France comme pour beaucoup d'autres pays et pas que pour le monde occidental. Pourquoi la notion même de mémoire occupe une place tellement importante, alors qu'il y a 30 ans, elle ne figurait même pas dans les manuels de sciences sociales, des livres sur comment on écrit l'histoire? Eh bien, la notion de mémoire ne figurait même pas. Aujourd'hui, elle est présente et omniprésente. Bon, moi, je formule une hypothèse pour essayer de répondre à cette question. Je crois que nous vivons une époque qui est une époque de transition, un changement de siècle, et nous vivons une époque qui est marquée par ce que j'appellerais une éclipse des utopies. Il faut prendre la mesure de ce constat. Il y a une différence majeure qui sépare ce début du XXIe siècle par rapport à l'ouverture, à l'entrée dans les deux siècles qui nous ont précédés. Le XIXe siècle s'ouvre, je reprends la périodisation suggérée par Osbaud, s'ouvre avec la Révolution française et son impact sur l'Europe et le monde. La Révolution française a non seulement changé le visage de la planète, d'une partie du monde, mais a engendré une utopie, c'est le début de la modernité et le socialisme est né de là, d'une certaine façon, le socialisme utopique, a engendré une utopie qui a traversé tout le XIXe siècle, qui a accompagné la société industrielle de la démocratie, qui est devenu, qui a pris la forme aussi de l'idée de progrès, le grand mythe du XIXe siècle. Le XXe siècle s'ouvre avec un événement cataclysmique qui est celui de la Grande Guerre, l'effondrement d'un ordre européen qui avait été instauré après les guerres napoléoniennes, au moment de la Restauration, mais la Grande Guerre engendre aussi la Révolution d'Octobre. Et la Révolution d'Octobre a, elle aussi, d'une manière très différente par rapport à la Révolution française, mais a un impact international très fort. La révolution russe, c'est le début du communisme. Et on sait très bien aujourd'hui, le communisme en Russie, hein, en Russie c'est un régime autoritaire qui deviendra assez vite un régime totalitaire, et donc une domination qui présente des caractéristiques de très nouveau. Mais la révolution d'octobre engendre aussi, en même temps, une utopie libératrice qui mobilise des millions d'individus, d'hommes et de femmes, dans le monde entier. Et cette utopie traverse encore une fois le siècle. C'est une utopie sans laquelle on ne peut pas, je pense, comprendre l'histoire du XXe siècle, ou si on la met entre parenthèses, si on le déface, on ne peut que mutiler l'histoire du XXe siècle. Et cette utopie, à un moment donné, au cours du XXe siècle, s'est même, je dirais, émancipée ou déconnectée de la révolution d'octobre et du régime qui avait incarné cette révolution. Parce que, on pense en France, mai 68 n'est pas un mouvement qui a comme modèle l'Union soviétique. Et pourtant, c'est un moment de mobilisation, de grande espérance, disons, portée par une utopie. Et même 1968, en Europe de l'Est, c'est le printemps de Prague, voilà, c'est l'idée, l'espérance, un socialisme à visage humain. Donc il y avait déjà une déconnexion entre les deux. Eh bien, le XXIe siècle s'ouvre avec, non pas une nouvelle utopie, mais avec l'effondrement des utopies qui ont marqué l'histoire du XXe siècle, la fin du communisme, la chute du mur de Berlin, puis l'implosion de l'Union soviétique, sont quelque chose qui va bien au-delà, je pense, de la fin d'un régime politique ou d'un système de pouvoir. C'est aussi l'écroulement d'une utopie qui a traversé le XXe siècle. Et donc, voilà, nous sommes dans ce contexte et je pense que ce retour vers le passé est un peu la conséquence, la réaction de cette éclipse des utopies. Un monde qui n'a pas d'utopie est un monde qui regarde vers le passé, hein, qui regarde derrière lui. Il y a un passage qui a été très discuté d'un livre qui, par ailleurs, me pose beaucoup de problèmes, dont je ne partage ni la conception ni les conclusions, mais le livre de François Furé qui s'intitule Le passé d'une illusion contient un passage qui est une description plutôt objective du contexte dans lequel se produit ce tournant du siècle. Il dit: l'idée d'une autre société devenue presque impossible à penser, nous sommes condamnés à vivre dans le monde où nous vivons. Alors, il y a derrière cette résignation mélancolique à l'ordre existant qui a été soulignée avec délectation par tous les conservateurs, disons, mais qui, je crois, est, est un diagnostic au fond juste sur le plan descriptif. Nous avons assisté à partir déjà de la décennie des années 90 de l'avènement de nouveaux mouvements de contestation du néo-capitalisme par exemple, ou du néolibéralisme. Il y a eu l'altermondialisme qui a été très important et qui continue des formes différentes. Mais alors, le slogan de l'altermondialisme, un autre monde est possible, hein, était un slogan qui se nourrissait, disons, d'un diagnostic absolument rigoureux et d'un diagnostic incontestable. Il faut se battre contre une planète réduite à marchandises, la réification du monde. Mais quand on disait un autre monde est possible, bon, les traits de ce nouveau monde, on avait du mal à le définir. On avait une part d'imagination, de fantaisie. Et donc, voilà, on était un peu sous, prisonnier de cet effondrement des utopies. Donc, je pense que ce début du XXIe siècle est marqué par le passage, j'utilise des métaphores que je reprends chez les philosophes, mais c'est des concepts finalement très simples et très clairs. Le XXe siècle a été dominé pendant une large partie par ce que le philosophe allemand de l'école, bon, le philosophe allemand et marxiste Ernst Bloch appelait le principe d'espérance. Et le XXIe siècle s'ouvre sous le signe de ce qu'un autre philosophe allemand qui n'était pas marxiste, qui s'appelait Hans Jung, s'appelait le principe responsabilité. Et le principe responsabilité découle un peu d'une vision effrayée du passé et d'une peur de l'avenir. Il y a derrière aussi une prise de conscience de ce que c'est que les catastrophes écologiques qui menacent l'avenir de la planète, le monde. Et il y a derrière aussi les conséquences d'un discours, d'une vulgate qui a été largement médiatisée à partir de la chute du mur de Berlin, vis-à-vis de laquelle une large partie, y compris de la gauche, est restée subalterne, disons, l'idée selon laquelle l'utopie est dangereuse, l'utopie est potentiellement totalitaire, vouloir construire, bâtir un ordre nouveau ne peut que engendrer des monstres totalitaires, et, bon, un discours qui est bien connu et qui a été décliné de différentes manières. Pour utiliser une autre métaphore, on pourrait dire, il y a un historien allemand qui commence à être connu aussi en France, qui est décédé récemment, qui s'appelait Rainer Koselleck, qui avait utilisé une formule très intéressante pour définir un peu le présent, un terme historique, le présent comme une sorte de point de lieu suspendu entre le passé et le futur. Il disait nous vivons dans une tension permanente entre le passé comme champ d'expérience et l'avenir comme horizon d'attente. Eh bien, je crois que à ce début du XXIe siècle, l'horizon d'attente a disparu. Il est largement brouillé. On ne le voit plus. Cette ligne d'horizon est devenue difficilement perceptible. Et le champ d'expérience, c'est connu. Par contre, une sorte d'expansion. Et dans ce monde qui regarde vers le passé, non pas de l'avant, eh bien, il y a une figure qui émerge, une figure qui, effectivement, est omniprésente dans l'histoire du XXe siècle, mais qui prend tout à coup une dimension nouvelle, ou qui est projetée au devant de la scène, mise sur un piédestal, parfois une figure qui est obligé à jouer ce rôle sans le vouloir à son corps défendant, c'est la figure de la victime. Donc, cette mémoire est une mémoire qui se focalise vers les victimes qui deviennent les véritables héros du XXe siècle. Et le XXe siècle devient, a posteriori, l'âge des guerres, l'âge des totalitarismes, l'âge des génocides, et donc l'âge des victimes. Il y a un historien américain qui s'appelle Tony Judd, qui a écrit un très beau livre sur l'après-guerre, Et ce livre se termine avec un chapitre sur la mémoire de l'Europe, enfin sur l'histoire de l'Europe après guerre. Et ce livre, ce chapitre s'intitule From the House of the Dead, de la maison des morts, la maison des morts, hein, 20e siècle comme. L'âge, l'époque des victimes. Bien, dans ce contexte, s'esquisse ou commence à prendre forme une mémoire européenne, ou plutôt, je dirais, dans ce contexte, se rencontre ou s'affrontent parfois plusieurs mémoires qui coexistent au sein d'un espace qui devient un espace politique comme l'Europe, qui est l'Union européenne, qui est désormais une Europe de 28 pays, et dans laquelle coexistent des mémoires qui étaient auparavant séparées et qui ne donnent absolument pas lieu à un paysage monochrome, monocolore, homogène, quelque chose qui n'a rien d'un bloc monolithique, hein, mais un espace dans lequel apparaît voilà, une intersection, une confrontation de mémoire. Il ne s'agit pas d'un espace homogène parce que les mémoires nationales sont loin d'être homogènes, elles sont divisées. La mémoire partagée est un mythe, même que c'est un mythe, celui de l'identité nationale, décrété par le ministère. Et donc encore moins la mémoire européenne peut être homogène. Mais il y a des mémoires qui entrent en dialogue et qui entrent en confrontation. Eh bien, définir cette mémoire européenne est extrêmement difficile et est une opération compliquée, mais une opération intéressante. Si on réfléchit un peu, bah, on se rend compte que, d'abord, on parle d'une mémoire européenne à une époque de globalisation, hein, où les mémoires européennes sont directement affectées par des processus qui dépassent les frontières non seulement nationales, mais aussi celles de l'Europe. Et on assiste à une réactivation du passé qui est un phénomène de portée internationale, la mémoire qui devient même un objet de négociation diplomatique entre que sais-je, la Chine, la Corée, le Japon, et toute une série de pays. Et on commence à parler d'une mémoire européenne à l'époque de la provincialisation de l'Europe, ce processus de globalisation qui fait que l'Europe n'est plus le centre du monde, déjà depuis un bon moment, mais maintenant cela ne fait plus de doute pour personne. Disons, à une époque où on commence à prendre à la mesure de ce qu'a été le passé de l'Europe, et si on réfléchit un peu, on se rend compte que l'histoire de l'Europe est une histoire de guerre, est une histoire de conflit, est une histoire de lacération, déchirement permanent. Historiquement, l'Europe s'est définie comme une entité homogène, comme une civilisation où a placé sa culture et son histoire sous le signe de l'unité par rapport à des ennemis extérieurs ou par rapport à des réalités extérieures. Et donc, ça a toujours été une sorte de définition négative d'une unité européenne. L'Europe a pu se considérer comme une civilisation au XIXe siècle par rapport au monde extra-européen qui était vu comme un monde colonial, comme un espace colonisable, comme un monde ouvert à la colonisation ou comme l'espace d'une altérité négative que l'Europe devait civiliser, devait conquérir. Et donc l'Europe civilisation contre le monde colonial sauvage et barbare. Alors, au XXe siècle, surtout à l'époque de la guerre froide, par exemple, une Europe catholique, protestante, libérale, contre une sorte d'Eurasie orthodoxe, musulmane et soviétique. Donc, il y avait ces clivages qui étaient à la fois politiques, culturels, ethniques. Évidemment, ce type de perception, de discours ne peut plus être reproduit, perpétué ou réactualisé aujourd'hui, tout au moins sous ces formes-là. Donc, parler de la mémoire européenne devient assez difficile, compliqué, si on ne peut plus s'appuyer sur ces stéréotypes désormais datés. Pour essayer de définir un peu un paysage mondial, ces mémoires de l'Europe, j'ai fait une tentative. C'est intéressant de voir comment certains événements qui ont profondément marqué l'histoire de l'Europe sont aujourd'hui commémorés dans les différentes parties de l'Europe. Comment se dessinent des perceptions différentes d'un même événement selon les perspectives des espaces qui peuvent être culturels, géopolitiques. Et je suis parti d'un exemple qui me semble très intéressant, tout le monde connaît, le 8 mai 1945. La date anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Comment est-ce que, une date qui est une fête nationale dans plusieurs pays, et comment est-ce, quelle est la perception de cet événement en Europe aujourd'hui? Et alors, j'ai essayé je pense qu'on pourrait faire une tripartition, cerner trois grands espaces différents, trois grandes perspectives différentes qui indiquent des modalités différentes de rapport au passé. En Europe occidentale, cet événement est commémoré, a pris une signification qui est assez claire. 8 mai 1945, c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est le début d'un processus d'unification européenne, l'Europe qui s'est toujours déchirée et des États qui se sont toujours opposés les uns aux autres décident de construire, de bâtir une maison commune. Et donc, c'est le début d'une époque de paix, de démocratie, de liberté, de prospérité, tous les mythes qu'on veut y ajouter. Cette vision, je pense, s'est renforcée au fil du temps et pratiquement tous les pays ont adhéré à cette vision. L'Allemagne, hein, c'est le cas le plus emblématique de ce point de vue, l'Allemagne progressivement a abandonné la vision du 8 mai comme le moment de la honte. Le symbole de l'humiliation de l'Allemagne. Il y a eu déjà, il y a 20 ans, un discours d'un président de la République fédérale qui désignait le 8 mai comme la date de la libération de l'Allemagne, tout le problème qui en découle, parce que si c'est la date de la libération, ça veut dire que les Allemands étaient opprimés par le nazisme, et c'est une façon aussi dédouaner les Allemands, les débarrasser du fardeau qui pèse sur leur conscience historique. C'est une formule qui a eu un fort impact médiatique, mais qui n'est pas sans ambiguïté, et qui indique clairement le rejet par l'Allemagne du passé nazi. Je ne fais pas de doute sur cela. Il y a eu en 2004 le chancelier Schröder qui a participé aux commémorations du débarquement en Normandie à côté de Chirac, de Tony Blair, et donc pour indiquer comment l'Allemagne désormais s'est inscrite dans cette vision. Et je dirais, dans cet espace mémoriel occidental, il y a une mémoire qui, d'une certaine façon, prime sur les autres, parce qu'elle est devenue une sorte de paradigme de la mémoire. C'est la mémoire de l'Holocauste, c'est la mémoire de la Shoah. C'est la Shoah qui a, d'une certaine façon, qui est revenue au centre de la scène, au centre de la culture, débat intellectuel, politique. C'est devenu le prisme au travers duquel on repense le passé. La mémoire de la Shoah qui a été portée pendant des décennies par les rescapés de la Shoah ou par la communauté juive, qui était une mémoire marginalisée pendant longtemps et qui, depuis une vingtaine d'années, bon, ça a été un processus qui a connu plusieurs étapes, mais depuis une vingtaine d'années est au centre de la mémoire européenne. Hein. Désormais, on ne peut plus penser à l'histoire du XXe siècle sans penser à la Shoah, on ne peut plus penser à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale sans penser à la Shoah. C'est une vision qui n'était même pas celle des historiens dans les années 60, par exemple. La mémoire de la Shoah qui, je pense, a raison certains sociologues, politologues, commentateurs, analystes, sont définis comme une sorte de religion civile du monde occidental. Une religion civile, c'est un mot très fort, mais je crois qu'il y a là quelque chose de vrai. Une religion civile, c'est-à-dire une mémoire qui est ritualisée, une mémoire qui est presque institutionnalisée, une mémoire qui est sacralisée, hein, et cette sacralisation est aussi la sacralisation de toute une série de valeurs qui se veulent des valeurs constitutives, de la démocratie libérale, etc. Donc, c'est la religion civile des droits de l'homme. À la transformation de la Shoah, de la mémoire de la Shoah en religion civile, a certes présente toute une série d'avantages. Alors, disons, est l'expression, le miroir d'une prise de conscience historique, de la formation d'une conscience historique, cela est très important, mais elle a aussi ses ambiguïtés et cette religion civile peut être aussi l'objet d'usage politique de la mémoire plus que discutable, voire même indécent. Il y a des vertus de cette religion civile. Je reviens à l'exemple de l'Allemagne. Si on va à Berlin aujourd'hui, on trouvera à côté du Reichstag, au cœur de la capitale allemande, un mémorial, Holocaust, Mahnmal, mémorial de l'Holocauste, qui est immense, 20 000 mètres carrés, et qui montre à quel point cette mémoire est devenue un élément constitutif, pour reprendre un terme aujourd'hui, de l'identité nationale. On ne peut plus aujourd'hui se dire allemand sans inclure dans l'histoire de l'Allemagne les crimes du nazisme. Et cela est quelque chose de indique une mutation de portée historique. Cette mémoire a permis à l'Allemagne de se penser non plus comme une communauté ethnique, comme historiquement a été la nation allemande, et de la permis de se penser comme une communauté politique, une communauté de citoyens, avec toute une série de problèmes qui sont aujourd'hui discutés. Quelle est la place des immigrés dans la société allemande, la possibilité d'acquérir une citoyenneté, chose qui était hors de question jusqu'à une époque présente. Je pense que la mémoire de la Shoah a joué un rôle important dans cette mutation culturelle, politique, identitaire. La transformation de la mémoire de la Shoah en religion civile a eu aussi d'autres conséquences. Elle a fait l'objet, disons, d'instrumentalisation politique, souvent, et d'usage politique, indécent, me paraît encore un euphémisme. Dans ce livre qui était cité tout à l'heure, j'évoque la commémoration de la libération du camp d'Auschwitz en janvier 2005, en présence des chefs d'État et des représentants des grandes puissances. S'étaient réunis là, à Auschwitz, Dick Cheney, qui était, comme on sait bien, l'architecte de la guerre contre l'Irak, d'Abu Ghraib et de Guantanamo, Jack Straw, qui était le ministre des Affaires étrangères à l'époque de la Grande-Bretagne, il y avait Berlusconi, mon compatriote, bref, tous les responsables de la guerre contre l'Irak étaient là, réunis, et donc ces commémorations qui étaient médiatisées à l'échelle planétaire avaient une signification politique qui était évidente. Nous sommes là pour commémorer les victimes de l'Holocauste. Cela veut dire que la guerre que nous sommes en train de faire en Irak est une guerre juste, est une guerre vertueuse, est une guerre qui s'inspire, disons, de valeurs, de principes qui sont tout à fait. Et donc là, c'est une instrumentalisation de cette mémoire qui me paraît tout à fait évidente. Mais autant, on pourrait donner toute une série d'autres exemples aussi. En Espagne, ce débat que j'évoquais tout à l'heure autour de la guerre civile qui a été, au moment de la transition, complètement refoulé. Hein, la transition, on l'a appelé en Espagne le pacte de l'oubli, le pacte de l'oubli. Hein, peur de retomber dans la guerre civile était tellement forte qu'on préférait éviter de revenir sur le passé. Et donc, après une transition amnésique, aujourd'hui, l'Espagne est complètement hantée par les spectres du passé. On entre dans une librairie espagnole et on a plein de livres sur la guerre civile, sur les crimes. Et en Espagne, on revient sur le passé franquiste et sur la guerre civile avec des catégories d'interprétation, une grille analytique qui est celle de la mémoire de la Shoah. On pense par exemple à la guerre civile comme un génocide, ce que je trouve personnellement plus que discutable, mais qui montre comment l'européanisation de l'Espagne signifie aussi une intégration de l'espace, donc un espace mémoriel européen qui est dominé par cette mémoire de la Shoah. Bon, comme je n'ai pas beaucoup de temps, si on se déplace maintenant, on va vers plutôt l'Europe centrale, les pays qui aujourd'hui sont dans l'Union européenne et qui faisaient partie du bloc soviétique. Et là, la vision, la perception qu'on a du 8 mai 1945 est tout à fait différente. Le 8 mai 1945, c'était le 9 mai, parce que la capitulation, la reddition inconditionnelle a été signée à Berlin-Karlovsk le 9 mai, n'apparaît pas dans la mémoire est-européenne comme un événement libérateur. Ce n'est pas le début d'une ère de prospérité, de paix, de démocratie, etc. C'est le passage de la domination nazie, avec tout ce qu'elle a vu, avec son cortège d'horreur et de violence, mais le passage à une autre domination soviétique qui a été une hibernation durée plusieurs décennies. Et il y a là un clivage très fort entre la Russie d'un côté, les pays qui ont été occupés par l'Union soviétique de l'autre. Donc, ce qui était l'Union soviétique aujourd'hui en Russie, le 9 mai 1945, c'est la victoire de la grande guerre patriotique. Il faut savoir ce que ça a été que la guerre à l'Est et la menace d'anéantissement connue par l'Union soviétique, cette guerre qui est encore aujourd'hui au centre de la mémoire russe. Il y a eu un épisode qui est très révélateur de ce contraste, disons, de ce clivage. Il y a quelques années, je crois que c'était en 2006, à Tallinn, la capitale de l'Estonie, il y a eu des affrontements physiques de rue devant une statue, qui est la statue aux soldats de l'armée rouge. Cette statue, au cœur de la capitale estonienne, représente pour la minorité russe d'Estonie la mémoire de la grande guerre patriotique, d'une guerre libératrice. Pour la majorité estonienne, cette statue du soldat de l'armée rouge symbolise des décennies d'occupation soviétique. Et donc cela montre bien comment la perception du même événement peut être différente selon une partie de l'Europe. Et donc ce qui apparaît aujourd'hui en Europe centrale et orientale, c'est un processus très fort et très profond de renationalisation des mémoires. Un regard sur le passé qui fait apparaître les nations en tant que communauté dans leur ensemble comme des communautés de victimes. C'est la Pologne qui a créé tout de suite son institut de la mémoire nationale, comme on l'appelle, qui est une sorte d'apologie de l'histoire du mythe national. À Hongrie, le musée de la terreur qui montre comment c'est une nation martyre qui a subi toutes sortes de, jusqu'à la liberté, etc. Et il y a un paradoxe parce que la mémoire de l'Holocauste est très marginale en Europe centrale et orientale. Et pourtant, l'Holocauste a bien eu lieu en Europe centrale et orientale. C'est bien en Pologne, en Ukraine, en Biélorussie. Donc, toutes les parties de l'Europe qui ont été exterminées aux Juifs d'Europe, c'est là que vivaient la plupart des Juifs qui ont subi l'Holocauste. C'est là qu'avaient été créés les camps d'extermination. Donc il y a là un paradoxe, il y a une contradiction, si vous voulez, qui est. Et Tony Judd, je reprends sa formule, il dit que pour les pays, les nouveaux membres de l'Union européenne, la mémoire de l'Holocauste est une sorte de deuil diplomatique. Hein. Il faut faire preuve d'assumer cette mémoire pour apparaître comme légitime dans une demande d'adhésion à l'Union européenne. Et donc, il dit que c'est une sorte de ticket d'entrée dans l'Union européenne. Il reprend la formule de Heinrich Heine au XIXe siècle. Pour les Juifs allemands, la conversion au protestantisme était une sorte de ticket d'entrée dans la société allemande, une manière de devenir respectable. Et donc il y a un deuil diplomatique, mais une fois, on demande toujours de rééquilibrer l'attention excessive d'ici portée à Manon Abachoa, alors que les crimes du communisme devraient occuper la même place. Et puis il y a encore une autre perspective, qui est une perspective que j'appellerais post-coloniale, mais qui est aussi une perspective européenne. Qui indique une perception encore différente de cette, de cet anniversaire, si on se situe dans un autre observatoire qui est celui de l'Afrique du Nord et de l'Algérie en particulier, le 8 mai 1945, c'est le massacre de Sétif. Pour mémoire, les défilés pour célébrer la fin de la guerre, la libération, des nationalistes algériens qui participent à ces manifestations avec leurs drapeaux, la police française qui les somme de baisser et au refus d'enlever ce symbole, un massacre qui est le début de plusieurs semaines de massacres, non seulement à Sétif, mais c'est le début d'une vague de répression coloniale qui aboutira à Madagascar 2 ans plus tard. Et donc, voilà, là, c'est une autre. D'ailleurs, les massacres donnent lieu à des nouvelles manifestations dans lesquelles les Algériens doivent baisser la tête devant le drapeau français lors d'un défilé. Et donc, cette date anniversaire a une perception qui est complètement différente en Afrique du Nord et dans une partie de la société européenne qui est porteuse, qui incarne cette mémoire post-coloniale. Encore une fois, pour mémoire, lorsque en 2005 tous les grands chefs d'État des pays de l'Union européenne célébrer l'anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, en Algérie, Abdelaziz Bouteflika, le président algérien, commémorait le massacre de Sétif, qualifiait le colonialisme français de génocide et demandait réparation. Il y avait là, encore une fois, une instrumentalisation politique de l'événement qui devient un élément, disons, de friction, de tension, de conflit dans les relations franco-algérienne, mais cela montre comment il peut y avoir une autre mémoire du même événement. Alors je dis cela non pas pour reproduire le cliché non plus du choc des civilisations, mais le choc des mémoires, selon la formule de Hahn. Mais cela pour dire comment faire. Il y a un espace qui est traversé par des courants différents, dans lequel coexistent des mémoires différentes, et non pas pour postuler séparation ou l'impossibilité d'un dialogue entre ces mémoires. Je pense que cette tension peut être fructueuse. Mais pour indiquer toute une série de contradictions dans lesquelles sont prises ces mémoires. Quand tu parlais de mon pays, la mémoire italienne, c'est tout à fait très intéressant de voir comment les métamorphoses qui se sont produites en 20 ans, je n'ai pas eu le temps de le faire. Mais voilà, si il faut. Cette confrontation pose le problème d'une réappropriation, d'une assumption de la mémoire de l'Holocauste en Europe de l'Est, c'est-à-dire là où l'Holocauste a vécu, pose le problème d'une remise en perspective historique du communisme et de la compréhension de l'histoire du communisme comme une histoire plurielle, dans laquelle il y a certes une dimension de domination autoritaire, voire totalitaire, mais l'histoire du communisme aussi comme histoire d'une utopie, histoire d'une espérance, et l'histoire du communisme aussi comme histoire de la constitution des classes subalternes d'un sujet politique. Alors ça, c'est une histoire du communisme qui est aujourd'hui complètement effacée. Et pour des raisons multiples, je n'ai pas eu le temps de parler, Maurice Halbwachs parlait des cadres sociaux de la mémoire, la fin de ce qu'on appelait le Fordisme, la fin du capitalisme industriel du XXe siècle avec des grandes concentrations industrielles qui était aussi a remis en cause la mémoire ouvrière, qui n'a plus comment dire, ces vecteurs de transmission qui étaient presque naturels auparavant, la fin des partis qui ont incarné cette mémoire, le Parti communiste au premier chef dans plusieurs pays, bref, donc, une mémoire ouvrière qui s'éclipse face à la montée de notre mémoire. Et une mémoire postcoloniale qui pose une question fondamentale qui est, je dirais, l'anthropologie politique sous-jacente au processus de formation des nations européennes. Les nations européennes qui se sont formées au XIXe siècle par opposition à une altérité qui était une altérité coloniale. Aujourd'hui, ce problème se pose comme l'héritage de ce passé, l'héritage de cette culture dans une Europe qui est une Europe multiculturelle, qui est une Europe multiethnique, dans laquelle il y a des dizaines de millions d'immigrés qui viennent d'Afrique et d'Asie et qui posent un problème de citoyenneté, qui questionne, qui interroge le passé de l'Europe. Toute une série de questions politiques qui sont inévitablement mises en avant par ce processus de construction des mémoires européennes. Mais bon, vous voyez que je m'arrête là, si on veut débattre un peu de cet ensemble.